lutte finale. Prouve pour nous, et demain, l'international sera le genre humain.
Ouais, nous sommes en direct du Puy-en-Velay, là, 20 000 personnes, 20 000 manifestants, dans la ville de Laurent Wauquiez, le ministre du Travail, enfin, ce qu'il en reste. Donc 20 000 personnes, c'est énorme. Il y a 20 000 habitants, 20 000 personnes, 20 000 manifestants de tous les bords. Sur ceux de la gauche, bien sûr, mais de tous les partis mélangés, tous les syndicats, ça fait chaud au cœur.
Ouais, bonjour Daniel Vermeil et toute l'équipe. Serge de Vaublanc, je participe à la manifestation du 1er mai. Et je vous fais un peu entendre l'ambiance.
Sarkozy donne 15 milliards, c'est bizarre, oh c'est bizarre. Sarkozy donne 15 milliards, pour qui donc est ce cadeau? Ce n'est pas pour les smicards, c'est milliards, oh c'est milliards. Ce n'est pas pour les smicards, bien sûr ce serait trop beau, bien sûr ce serait trop beau. C'est pour les mangeurs de caviar, quel hasard, quel hasard. C'est pour les mangeurs de caviar, mais c'est pas pour les prolons, mais c'est pas pour les prolons. Sarko se prend pour une star, quel vantard, quel vantard. Sarko se prend pour une star, alors que c'est un abon, alors que c'est un abon. Comme ça commence à se voir, le vantard, le vantard. Comme ça commence à se voir, le vantard tombe dehors.
Bonjour, j'aimerais que vous nous disiez un peu, ou que vous nous donniez des pistes, pour savoir comment on peut faire pour se passer des actionnaires, des patrons et de l'État qui répondront jamais aux demandes, pour pouvoir produire, pour pouvoir vendre ces productions de toutes ces usines qui sont fermées. Voilà, comment concrètement on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour devenir ceux qui décident et ceux qui commandent là où on travaille. Merci, merci pour les émissions.
Alors là, bravo, hein. Mais vraiment remarquable l'émission d'aujourd'hui, remarquable. Je ne sais pas si j'ai entendu ce que tu voulais faire entendre, Daniel, mais elle m'a emballé cette émission, parce que elle fait un tableau exact de la situation. Et voilà, d'un côté, des gens qui en exploitent d'autres, mais qui ont tout le droit pour eux. Et les autres qui tombent dans le folklore, ouais, les patrons, on va vous prendre par les couilles, machin, truc, et vous y arriverez pas. Et alors l'interview de l'avocat, là, enfin, c'était vachement bien, quoi. C'était vachement bien, parce que ça montre bien ce qui se passe, quoi. Et alors on a envie de leur dire aux ouvriers, mais vous nous faites chier aussi, putain. Vous nous faites chier, vous êtes là à ouvrir votre gueule, et puis pourquoi vous croyez pas que vous pouvez vous passer des patrons? Pourquoi la classe dirigée, elle croit qu'elle a besoin de la classe dirigée? C'est ça qui est insupportable en même temps. Et puis, et pourquoi vous allez voter Sarkozy? Alors, je sais bien que c'est pas votre faute, hein. Je sais bien. Mais putain, mettez-vous un peu de plomb dans la tête, quoi, avant d'aller faire les guignols. Et ça va manifester le 1er mai, ça va rien changer. Putain, mais vous pouvez vous en passer de Sarkozy et de tous ces salopards et du patron de LVMH et tous ces salopards. Vous pouvez vous en passer. C'est ça que vous devez comprendre, putain. Mais il faut aussi vous en occuper vous-même, quoi. Ah non, vraiment, elle m'a emballé, cette émission. J'espère que beaucoup de gens l'ont écoutée et l'ont comprise, comme moi, surtout. Je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait comprendre, mais alors là, je suis sur la même ligne que toi, Daniel, si c'est ce que tu voulais faire entendre. Chapeau, Daniel, chapeau, François. C'était bien, parce que ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve souvent. Ça se résume... la lutte sociale a une espèce de folklore dans lequel les autres... Ah, c'était très bien vu, quoi. Les autres, ils s'en branlent, ils vont attendre que ça se passe, ils vont tout signer, puis ils vont tout annuler. François Ruffin, là, j'en profite aussi pour dire, j'ai entendu, il y a un ou deux jours, je sais plus, il parlait du fakir, et il s'en prenait à Jacques Delors. Alors ça m'a complètement réjoui, quand je pense que ce mec-là, qui s'est fait passer pour un socialiste, il a déclaré il y a quelques jours qu'il voyait bien à la présidence de la Commission européenne, Fillon ou Juppé, quoi. Enfin, c'est vraiment des bouffons. Il faut aller prendre l'Élysée, quoi. Il faut aller prendre les ministères, il faut aller prendre les préfectures, c'est ça, c'est tout, quoi. Et puis, il faut leur dire, on n'a pas besoin de vous, il n'y a même pas besoin d'être violent, on vous fout dehors, voilà. Mais on va montrer qu'on sait s'organiser. Et puis, la police, si elle sert à l'ordre public, elle doit être du côté du peuple, évidemment. Elle ne doit pas être du côté des exploiteurs. Sinon, la police a tort complètement, et ces gens-là méritent d'être massacrés quand ils tapent sur le peuple. Voilà ma conviction profonde. Allez. À très bientôt, Daniel, Agnès et François et tout le monde.
Sarkozy, je les flambeur, oh, que c'est pas beau. Eh bien, que les Français pleurent, disons-le tout haut. Pas besoin d'un président qui s'appêtera tout vent. Vivons, 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 Napoléon.
Bon 1er mai à tous. Un peu de lecture pour fêter ce 1er mai. Au rayon enflammé de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient une armée noire vengeresse qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Zola, Germinal. Elle est venue, la récolte des siècles futurs. Et la terre éclate.
Salut, Quentin de Colmar. Je voulais remercier les chaînes de télévision de nous rappeler d'avoir peur. Peur des jeunes, des cités, des étrangers. Quand je regarde un bon reportage de TF1 ou de M6 sur les violences dans les cités, je suis si content de voir qu'on pense à moi dans la petite lucarne, qu'on me dit tout bas, hey, « Hé, n'oublie pas d'avoir peur des Arabes, ils sont si méchants. La preuve, on fout leur visage. » Et quand on en laisse avec le visage normal, on choisit toujours un noir ou un maghrébin qui parle le jeune des cités. Merci de ne montrer que des policiers qui parlent des jeunes comme des terroristes et que ceux-ci connaissent le chemin de la cellule par cœur vu qu'ils y vont plusieurs fois par semaine depuis qu'ils ont 13 ans. Merci de nous montrer toujours des flics méchants. On oublie si vite qu'ils le sont. Ah vraiment merci, j'avais oublié d'avoir peur. Merci pour cet endoctrinement. Salut.
Oui, j'ai appelé pour juste faire une réflexion sur les séquestrations de patrons. Finalement, c'est un peu comme les gardes à vue, non ? Bon, c'est peut-être un peu plus musclé que certaines gardes à vue dans certains commissariats de police, mais quelque part, ça ressemble un petit peu. Sauf que là, ce sont pas des agents assermentés qui maintiennent les patrons dans leur bureau. Puis en plus, ils sont dans leur bureau, ils sont pas dans une petite cellule avec de la pisse partout, et puis des fouilles à nu, et puis des touchés rectales en veux-tu, en voilà. Ah là là. Allez, sur ce, on attend le 1er mai, espérons qu'il fasse beau. S'il pleut, tant pis, j'irai à la piscine. Allez, gros bisous, la lutte continue, on lâche rien, ciao.
Un petit reportable d'un reste de la vie.
Allez-y.
Eh ben, Arras, ça tombe bien, parce que j'y suis, moi, à Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, avec l'ami Bidas. Sur la grande place d'Arras, je suis. Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais là ? Eh bien, je viens me balader au 8e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Ça se tient, voilà, dans le quartier des Arts, à Arras. Et c'est de là que je vous cause et que j'ai écouté avec délectation les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, ni Dieu, ni César, ni tribun, peuple esclave, debout, nous ne sommes rien, soyons tout. Si vous voulez avoir un peu confiance, retrouver confiance dans le génie français, eh ben, il y a quelque chose là qui est dans l'international, dans les paroles de l'international, et dans la musique aussi magnifique. Aujourd'hui, une heure consacrée à l'international, l'histoire de l'international avec Marc Ferraud. C'est une rediffusion qu'on a retouchée, reconstruite avec Raphaël Moutarde. Mais il y a quelques années, cette émission avait fait grand bruit parce que c'était scandaleux d'étudier, de se pencher sur l'international. Et ben voilà, les temps changent, l'air du temps change aussi. Le fond de l'air est rouge, au moins aujourd'hui, donc l'international, jusqu'à 16h dans la Basse. J'y suis auparavant. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis. Oh, je le répète, 01 56 40 37 37.
Salut, là-bas, si j'y suis, les auditeurs et les équipes, c'est Franck pour un reportage en direct de Grenoble. Alors, il me semble que c'est le moment de compter ses troupes, si j'ai bien compris. C'est le 1er mai, il fait beau, tout le monde est parti à la montagne, au lac, que sais-je encore. Mais il y a diablement du monde, je trouve. Alors bon, la CFDT, faut arrêter avec Zazie. Et faut arrêter avec les trucs commerciaux à deux balles, là. Autrement, impeccable. Voilà, salut, ciao.
Aux AMG du Thouars, c'est dans les Deux-Sèvres. N'oubliez pas notre prochaine rencontre au Café Repère de Thouars, lundi 4 mai à partir de 18h30. Je rappelle que c'est au Café des Arts, 53 rue Saint-Médard. Bon, maintenant, si vous craignez de contracter la grippe mexicaine, ben, munissez-vous de masques, mais venez quand même. Bonne journée à tous, c'est la part de Marie-France.
Bonjour, aujourd'hui Nicolas Sarkozy est au plateau des Glières. Eh bien, l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui n'entend pas laisser à lui seul les valeurs de la résistance et appelle à nouveau à un rassemblement pique-nique autour de Stéphane Hessel, Raymond Aubrac, Dr Guyader et Alain Rexalot pour échanger des paroles de résistance. Nous célébrerons les valeurs de fraternité et de solidarité qui fondaient le programme du Conseil National de la Résistance. Sans banderole, sans slogan, mais avec le pique-nique, venez nombreux le dimanche 17 mai à 11h au plateau des Glières. Au revoir et au 17 mai.
Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Je suis Billy, interne en médecine générale, récemment aux urgences de Valenciennes. J'appelle pour dire que je suis content et que c'est nécessaire que ça bouge dans les hôpitaux et dans la santé. Ça fait 8 ans que je fais des stages dans les hôpitaux, beaucoup de choses ont changé, que ce soit l'externalisation du bio-nettoyage des surfaces qui sont assurées aujourd'hui par des entreprises privées, que ce soit l'attribution des budgets des hôpitaux en fonction de la fameuse activité ou juste les conditions de plus en plus difficiles face au manque de personnel. C'est évidemment les patients qui payent le prix fort, mais nous aussi on en a marre, même si les voix critiques sont un peu trop souvent isolées. Alors, nous sommes là aujourd'hui au début d'un mouvement qui s'arrêtera, j'espère, pas à la critique d'une seule réforme, sinon c'est clair qu'on va se faire entuber. Ce qu'il faudrait faire, c'est profiter de ce qui se passe en ce moment pour organiser quelque chose qui nous manque, une convergence des luttes plus grande entre travailleurs de la santé et aussi et surtout avec les fameux, entre guillemets, usagers de la santé, les citoyens, le peuple, quoi. Donc j'espère que le 1er mai, vous irez tchatcher les blouses blanches que vous voyez, participer les initiatives, nous aider à construire ensemble le système de soins que l'on veut. Voilà, on va pas lâcher l'affaire, ils passeront pas. C'était Billy du 36 près de Lille.
Bonsoir. Petit aperçu de la presse locale. Dans le journal de Saône-et-Loire de mardi, un quart de la première page sur la baisse de la TVA. Une demi-page sur un producteur de vin bio avec grosse photo couleur. Et la manifestation sur la défense de l'hôpital public en page 21 après les sports. Comme disait l'autre jour un ouvrier de Gandran, c'est à gerber. Salut à tous, l'heure est grave.
Allô Daniel, un petit coucou de la manif de Saint-Raphaël, ville par excellence des retraités et des mecs de droite. Et ben on est quand même dans la rue. On n'est pas très nombreux, mais on est là et ça fait du boucan. Allez, bisous,
c'est Billy Bar. Les dames, oui, c'est... Continuez. Les damnés de la terre, de vous, les forces de la fin. Salut, c'est Daniel Mermet avec l'International. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Celle-là, vous la connaissez?
Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour chanter.
C'est en français, là.
La terre, je ne peux pas, sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous, c'est demain. La terre nationale sera le genre du chapeau.
Pas du tout. La dame n'a pas apprécié du tout en passant devant notre bureau alors qu'on écoutait la 587e version de l'International en préparant cette émission. La rombière BCBG est passée le cul pincé. Toute ma jeunesse, a dit le type qui venait réparer, par contre, la machine à café. La machine à café la plus internationale qui soit, puisque nous jouxtons les bureaux de Radio France Internationale et des journalistes du monde entier se retrouvent à notre machine à café. Évidemment, l'international n'évoque pas la même chose pour celui qui a fui la dictature argentine et le polonais qui a échappé à l'occupation soviétique. Ça n'a pas le même sens pour le béninois d'aujourd'hui qui se souvient de son pays d'Afrique marxiste par rapport à la dame de la rédaction vietnamienne qui se souvient des bombardements américains. Y a-t-il un autre chant, un autre hymne dans l'histoire du monde qui évoque autant à la fois d'émotions, de regrets, d'amertume, qui soit à la fois la nostalgie d'une utopie qui renvoie au naufrage de la grande illusion, qui rappelle le cauchemar des tyrannies totalitaires. S'agit-il d'un monument ringard, pompeux, comme une statue déboulonnée qui rouille dans un hangar poussiéreux, ou alors une petite braise qui vacille et qui persiste malgré tout? C'est une histoire, en tout cas, qui est partie d'ici, de notre France. Et c'est cette histoire que nous allons évoquer avec des archives, avec des élus à l'Assemblée nationale que Anne Rioux a rencontrés. Et puis des gens comme Monsieur le maître Garçon et aussi l'historien Marc Ferraud qui a écrit une petite histoire de cet hymne, l'International. Voilà. Sur un terre, là-bas, si j'y suis, nous ne sommes rien, soyons tout.
Debout ! Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout.
C'est la lutte finale, reprends-nous et demain. International, c'est pas une blague.
Vive la révolution ! Vive !
Marc Ferraud, on vous voit comme un érudit, un historien érudit, mais... On ignore que vous êtes un dangereux bolchevique, en fait.
Ah oui, oui, surtout que j'ai jamais été communiste.
Oui.
C'est comme ça qu'on peut être un pur bolchevique.
Voilà. Alors, et là, j'ai la preuve. Mm-hmm. Vous avez écrit une histoire de l'International, du chant, de l'hymne l'International.
Oui. Alors, comme les aspirations que les révolutions russes et autres espéraient satisfaire, ces aspirations se sont fourvoyées. Mais ce n'est pas parce qu'elles se sont fourvoyées que ces espérances n'étaient pas légitimes. Pour remonter le courant, si vous voulez, quand les éditions Noésis m'ont demandé si je voulais faire quelque chose sur l'international, la chanson, j'ai bondi de joie et j'ai fait ce petit livre.
Et alors, l'international est toujours là pour bander les énergies et donner du cœur au ventre.
Voilà. Absolument.
Vous avez chanté l'international dans votre jeunesse ?
Pas tellement, non, je crois pas. Moi, je chantais plutôt la Marseillaise. Vous
avez chanté. Ah.
J'étais... Parce que l'idéal de l'international semblait progresser dans le sens de l'histoire. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, ça s'est fourvoyé. Les communistes russes ont fait de cet idéal une catastrophe, une demi-catastrophe, disons plutôt. Alors, comme moi, je ne pardonnais pas ni au parti, ni à la CGT, je n'avais pas de raison de chanter l'international. Mais maintenant que cet idéal est menacé, alors peut-être que je chanterai.
Debout les damnés de la terre, debout les portes de la faim, la raison en eux en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisant table rase, pour l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous dès demain. L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain.
Combien de femmes, d'hommes ont chanté l'international à travers le monde, à travers notre histoire récente, et dans combien de sens différents? Chanter l'international n'a pas eu le même sens entre le moment de sa création et le sens que ça a pu avoir, je sais pas moi, dans l'URSS de Staline ou la Chine de Mao Tse-tung. C'est tout à fait différent. Et ce chant, qui est toujours là, bel et bien vivant, eh ben, est chargé de toute cette histoire-là. Hautement politique, symbole hautement politique que l'international, qui concerne le peuple, les peuples que nous sommes, mais aussi bien les élus de ces peuples et d'une autre. Puisque, voilà, on se met à l'honneur nous-mêmes, l'international est né en France. Alors, on va à l'Assemblée nationale, on va dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec Anne Rioux, tâcher de demander à nos chers élus ce que représente pour eux l'international.
Vous voulez bien vous présenter ?
Moi, Dutin, député de la Dordogne. Le communiste, j'étais membre du parti.
Voilà. Toujours ?
Toujours, toujours. Vous voyez bien, je suis peut-être le seul député qui aborde à la Saboutonnière la mémoire de Lénine. Ni Dieu, ni César, ni Trudeau. Mais vous savez, c'est l'air qui, si je le dis, l'air. C'est un chant remarquable. Et je la sais bien, vous savez, je la sais. Pas complètement. Debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim. C'est l'éruption de demain. Nous faisons table rase, debout dans un, debout, debout. Le monde va changer de. Ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous dès demain. L'international sera le genre humain. Voilà. C'est un chant remarquable parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça si par hasard on l'appliquait tel que le chant le dit. Et je souhaite qu'un jour on le fera.
C'est un chant d'espoir, d'accord, mais c'est un chant antimilitariste aussi.
Oh, mais c'est un beau chant. Oh, c'est formidable. Oh non. C'est un peu comme la Marseillaise. Croyez-vous que la Marseillaise, c'est pas joli? C'est magnifique, la Marseillaise aussi. Vous savez, ça a été écrit il y a longtemps, hein. Et j'espère que ça vivra longtemps, longtemps, cette chanson-là.
C'est une passion que vous avez pour ce chant, monsieur?
J'étais tout petit, vous comprenez. Je vous parle de ça, moi, lorsqu'il y avait l'occupation. Nous avions les Allemands chez nous. Eh bien, je me souviens, à l'école, on ne chantait pas l'international, mais celui qui avait été le premier de la classe, il montait les couleurs. Alors, on lui faisait chanter la Marseillaise, et Maréchal, nous voilà. Et alors, Maréchal, nous voilà, chantez pas. Et l'instituteur, avec sa canne, nous tapait sur la tête en disant, il faut chanter. Alors, on faisait jamais de faire marcher les lèvres, mais j'aurais bien aimé chanter l'international.
Lourd, lourde de mémoire, l'international. Et on n'est pas les premiers à évoquer ce chant et essayer, avec quelqu'un comme Marc Ferraud, d'en retracer l'histoire dans les archives de l'ORTF. Au 28 mai 1958, à 22h, on trouve une émission qui était présentée par Maître Maurice Garçon évoquant l'international.
Le poème, ai-je dit, avait passé inaperçu. Pourtant, la chanson qui comporte 6 couplets contenait en raccourci l'essentiel de tout ce qui constituait le programme des aspirations du prolétariat.
Alors, dans quelles conditions s'écrit ce texte et s'écrit cette musique ?
Ben, écoutez, elle s'écrit parce que la Marseillaise, au XIXe siècle, avait perdu sa signification. La Marseillaise était un chant révolutionnaire. Mais petit à petit, elle est devenue un chant de la victoire. La victoire de Napoléon. Et puis un chant de la nation, donc un chant patriotique. Et même, on peut dire qu'au XIXe siècle, sous Louis-Philippe, on a dressé une statue à Rouget de Lille. Or, Louis-Philippe, c'est pas exactement l'incarnation de la Révolution française. Donc, si vous voulez, l'esprit révolutionnaire ne disposait plus de sa Marseillaise. Alors, les révolutionnaires, ou les gens qu'on appellerait aujourd'hui de gauche, ou les qui luttaient contre le patronat, qui luttaient contre la monarchie, qui luttaient contre l'oppression, ils chantaient autre chose. Ils chantaient « Ça ira, ça ira », ou ils chantaient « La Carmagnole », vous voyez, ils chantaient des choses comme ça. Et ils n'avaient pas d'hymne vraiment révolutionnaire, jusqu'au moment où Potier a rédigé cet international, n'est-ce pas, dont on a eu connaissance très tard, seulement en 71, c'est-à-dire au moment de la Commune de Paris.
Alors, c'est pendant la Commune que le peuple s'approprie l'international et chante l'international.
S'approprie, c'est peut-être pas le mot, qu'il l'adopte et qu'il la trouve un hymne fantastique, encore que j'ose pas employer le mot d'hymne, parce qu'il n'y avait pas de musique à l'époque. Il y avait que les paroles. Alors, les paroles étaient très belles, mais les paroles sans musique, ça passe pas. Alors, les gens continuaient à chanter la Carmagnole, vous voyez, pour ne pas chanter la Marseillaise, qui avait perdu son sens, et ils avaient ce texte, mais il n'y avait pas de musique, donc on ne chantait pas encore l'international, on l'a chanté plus tard, vers 1880.
C'est la lutte finale, gros pour nous et demain, l'international sera le genre humain.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. On s'adresse à qui ? Quel forçat ?
Eh bien, on s'adresse, c'est écrit en vers 71, on s'adresse aux ouvriers qui travaillent dans les mines. On s'adresse aux enfants qui travaillent à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui font 10-12 heures par jour. C'est à eux que s'adresse l'international. D'ailleurs, Potier, lui-même, est un homme qui lutte pour la justice sociale. C'est un artisan, n'est-ce pas ? C'est donc un homme qui travaille de ses mains et qui, d'une certaine façon, voit la condition déplorable des travailleurs. C'est dans cet esprit qu'il écrit.
Alors, il y a cette phrase qui fera fortune, « Du passé, faisons table rase ». Cette phrase a été reprise de tous les côtés. Là, comme historien, vous ne pouvez pas rester inerte face à une phrase pareille.
Alors, « Du passé, faisons table rase », c'est-à-dire « Changeons tout ». C'est un peu le cri des anarchistes, le cri qu'ils émettront plus tard. Mais cette phrase « Du passé, faisons table rase », moi, personnellement, je la conteste comme historien, parce qu'on ne fait pas table rase du passé. Le passé surgit toujours à un moment ou à un autre. Ça veut dire que ce qui a été refoulé, ce qui a été étouffé, ce qui a été oublié, revient à la surface par la mémoire des familles, la mémoire des professions, la mémoire sociale.
Et debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim, la raison tonnance au cratère, c'est l'éruption de la faim. Et du passé faisons table rase, fous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tôt. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international.
Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Et là, on se dit, mais attends, Lénine a chanté l'international.
Oui,
ni Dieu, ni César, ni tribun. Les tyrans, les Césars rouges et les autres ont chanté, ou ont entendu chanter oui. Ce couplet. Mmh.
Mais ils ne se prennent pas pour des tyrans.
Ils ne se prenaient pas pour des tyrans.
Non, ils se prennent pour l'expression de, ou de la classe ouvrière, ou du prolétariat, ou de... la nation, il n'en revient pas à l'idée qu'ils sont tyrans.
Castro fait chanter l'international.
Castro, mais Castro n'était pas communiste. Castro est devenu communiste. Castro, c'était un bourgeois catholique, indigné des drames que connaît la population cubaine, n'est-ce pas ? Et qui se révolte contre la mafia cubaine, contre la prostitution, contre tout ce qui se passait, et qui, peu à peu, glisse vers une forme de socialisme communiste marxiste à cause du blocus des États-Unis, de l'aide que lui apporte la Russie, et qui s'identifie peu à peu à l'extrême-gauche. Mais au début de Castro, au moment de ses débuts, on vend aussi bien les textes catholiques que les textes marxistes. En 59, 60, 61, 62, c'est plus tard qu'il va devenir plus radical.
Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión.
Le quatrième couplet formulait une revendication pour établir une meilleure distribution des richesses. Le cinquième exprimait la haine de la guerre. Et le sixième, l'établissement d'un ordre nouveau.
Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisir à loger ailleurs. Combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Et c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain.
Mais l'esprit dans lequel Potier écrit ça, c'est quoi ? C'est un esprit socialiste, comme on pouvait l'entendre à l'époque, ou c'est plutôt anarch ? C'est dans quel esprit sommes-nous ? Est-ce qu'il appartient à ceux qu'on a appelés ensuite les socialistes de l'utopie ?
Mais vous savez, aujourd'hui on fait des distinctions entre le socialisme dit scientifique, le marxisme, le socialisme dit utopique, mettons Proudhon, et puis les anarchistes qui veulent détruire toutes les formes d'autorité. Bon, à l'époque, disons que on faisait pas des différences aussi nettes entre ces idéologies, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on les fait parce que les socialistes se sont surtout, et les communistes ont surtout combattu l'oppression économique, dont ils font l'origine de l'oppression politique. Alors que les anarchistes ont été beaucoup plus loin parce qu'ils ont combattu l'oppression dans la famille, n'est-ce pas, l'oppression de personnel, toutes les autorités. Alors que les socialistes ne condamnaient pas toutes les autorités, puisque eux-mêmes entendaient exercer l'autorité, et c'est ce que les anarchistes leur reprochaient. Alors Potier, si vous voulez, est adopté par tout le monde, puisqu'il va y avoir une version anarchiste de l'international, où il n'y a que deux, trois mots qui changent, finalement, n'est-ce pas? Les anarchistes, les socialistes, les communistes, tout le monde a adopté cet hymne, et simplement, comme vous le savez, les socialistes et les communistes se le sont arrachés.
En mai 1936, la foule chante l'international et acclame Léon Blum, le socialiste Léon Blum. Après, nous voilà dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec Anne pour demander à nos élus d'aujourd'hui ce que l'international, l'hymne l'international représente pour eux.
Dans ma jeunesse, je l'ai beaucoup chanté. Donc je le connais effectivement très bien. Je connais pas tous les couplets, mais je le connais effectivement bien. C'est d'ailleurs, c'est un chant qui fait partie intégrante de notre histoire, de l'histoire du mouvement ouvrier français et du mouvement populaire français. J'ai personnellement beaucoup d'affection pour ce chant, bien qu'étant un élu de l'opposition, mais j'ai été dans ma jeunesse au Parti communiste français. Alors je le connais forcément bien. Et je ne renie pas ce passé qui m'a construit.
Il vous arrive de le chanter encore ?
Ah oui, dans les fins de banquet, dans les fins de repas, en famille, ou pour des choses comme ça, bien sûr. Pour moi, ce chant est chargé de beaucoup de souvenirs de fins de manifestations lycéennes ou étudiantes. Donc je pourrais vous commencer en disant « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim, du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Nous ne sommes rien, soyons tout, c'est assez magnifique, merveilleux. Je pense qu'il faut un idéal dans la vie, pour la jeunesse.
Mais il y a quand même des strophes un peu dures envers les possédants, appelons ça.
Attendez, oui, bien sûr, mais attendez, ça a été écrit à quelle époque, l'international ? Bien, c'était une époque qui était quand même arde et difficile pour les gens qui vivaient du fruit de leur travail et de leur labeur uniquement. Donc, bon, c'est pas... je crois que ça fait partie maintenant de la poésie française, hein, enfin, comme Aragon.
Mais est-ce qu'il vous arrive de chanter cet air devant vos amis vos actuels amis politiques ?
Eh bien, c'est surtout devant eux, pour vous confesser, que je le chante.
Pourquoi ?
Parce que je crois que je demeure un rebelle.
Est-ce que vous l'avez appris à vos enfants ?
Ah, attendez, non, je suis pas quand même dans l'endoctrinement... Ils auront bien le temps, d'ailleurs peut-être que je n'aurai pas besoin de la leur apprendre, par esprit de révolte, peut-être qu'ils la chanteront. Je crois que c'est pas tellement l'international, la génération d'aujourd'hui, c'est le fameux « tous ensemble » que reprennent d'ailleurs les lycéens aujourd'hui dans la rue.
« Tous ensemble aujourd'hui, groupons-nous, et demain ». Hier, Maurice Leroy, ex-communiste, demeure un rebelle. Voyons ce que dit un communiste d'aujourd'hui, Patrick Braouzec, qui est député et maire de Saint-Denis, quand on évoque devant lui l'international.
Écoutez, moi je ne la connais pas complètement. Je connais le refrain, et puis je ne sais même pas dire si je connais bien les couplets. Moi je suis un communiste tardif. Qui n'a pas été élevé au biberon révolutionnaire. Et donc j'ai une grosse lacune. J'étais plutôt marqué rock'n'roll. Alors, bon.
Vous voulez bien vous présenter, justement ?
Patrick Braouezec, maire de Saint-Denis. Alors, c'est d'autant plus un geste anti-culturel que de Jeter est né à Saint-Denis, qu'il y a passé une partie de sa vie, qu'on a un square de Jeter à Saint-Denis, que l'original du texte international est au musée de Saint-Denis. Enfin bon, donc j'ai aucune excuse pour ne pas le connaître par cœur. Et à la place de l'immeuble où est né Pierre de Jeter, eh bien, il y a maintenant un foyer de personnes âgées. Et sur ce foyer de personnes âgées, il y a une plaque qui commémore la naissance de Pierre de Jeter à Saint-Denis. J'aime pas trop, moi, les chants, comment dirais-je, les chants qui ont un côté de rassemblement collectif, qui peuvent être un peu fanatiques, ou en tout cas qui font abstraction de l'individu, de la personnalité individuelle. J'ai quand même un souvenir particulier qui est la manif du 13 mai, je crois, il me semble bien, 13 mai 68, où on était place de la République, où on attendait, on piétinait, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de personnes, et on a chanté à plusieurs reprises le refrain international. C'est la lutte finale d'un an, fait des deux, c'est pas des demain.
On vient à l'histoire de l'International dans cette émission, cette archive de 1958, mai 1958, Maître Maurice Garçon.
On peut dire qu'en 1887, lorsque mourut Potier, personne ne connaissait cette chanson. Il n'y fut faite aucune allusion dans les discours prononcés à ses obsèques. Et au surplus, elle avait été publiée mais jamais chantée, car Potier n'avait pas indiqué d'air pour accompagner ses paroles. Ce n'est que l'année suivante, en 1888, que fut fondée à Lille, sous le titre « La lyre des travailleurs », une chorale organisée par Gustave Delory, le futur maire de Lille et futur député du Nord. Et dans cette chorale se trouvait un ouvrier d'usine, Pierre de Jeter, né en 1848, qui était un amateur de musique et qui avait, en dehors de ses heures de travail, suivi les cours du conservatoire de Lille pendant 4 ans. Même il avait obtenu un premier prix. Il jouait de la basse et du saxophone, il chantait le soir comme choriste au théâtre, et entre-temps, il composait des mélodies. Pierre de Jeter avait un frère, Adolphe, qui avait une assez jolie voix de baryton, et avec un beau-frère, qui était simplement fort des épaules et des reins, pendant la période de chômage, pendant les grèves, pendant les périodes électorales, les trois hommes donnaient des concerts dans la rue. Le beau-frère, l'homme fort, tirait une charrette sur lequel on avait hissé un harmonium. Pierre de Jeter jouait de l'harmonium et Adolphe chantait. Et c'est ainsi que, pour meubler le répertoire de la lyre des travailleurs, le futur député Delory remit à Pierre de Jeter le livre des chants révolutionnaires de Potier en lui demandant de mettre quelques chants en musique. De Jeter trouva dans le livre le poème de l'International et il créa alors l'air si connu aujourd'hui. enthousiasmés, les membres de la Lyre des Travailleurs décidèrent d'éditer la chanson à 6000 exemplaires. Mais pour ne pas compromettre l'auteur de la musique, qui était un ouvrier, et indisposé contre lui son patron, on décida de supprimer le prénom et on écrivit « Paroles de Potier, musique de De Getter ». Plusieurs éditions parurent dans les mêmes conditions en 1894 et en 1896. Cependant, l'international faisait son chemin. Chantée pour la première fois à Lille en 1888, elle demeura passer longtemps dans les centres des ouvriers du Nord. En 1894, une édition parue à Cambrai fut poursuivie pour provocation au meurtre et excitation de militaires à la désobéissance, et l'éditeur Gosselin fut condamné à un an de prison.
Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.
Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées. Crosse en l'air et rompons les rangs.
Alors ça va disparaître. Parce que à partir de 1870 jusqu'en 1914, avec la perte de l'Alsace-Lorraine en France, le sentiment patriotique va s'épanouir et va devenir exaspéré, n'est-ce pas ? Et le patriotisme-nationalisme va prendre la place de l'internationalisme. La preuve, c'est que tout le monde a fait la guerre de 14. Il n'y a pas eu de déserteur.
On dit qu'en 1917... au chemin des dames, on a chanté la chanson de Craon, mais on a chanté aussi l'international.
Oui, on dit qu'on a chanté l'international, c'est vraisemblable.
Est-ce qu'on a chanté ce refrain, celui-là ? Parce que c'est quand même costaud. Oui. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, on parle des généraux, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.
Vous savez, il y a un malentendu sur les mutineries de 1917, n'est-ce pas ? On veut faire de ces mutineries des manifestations pacifistes, auquel cas ces strophes s'appliqueraient aux mutineries. Mais les mutineries de 1917, ce n'étaient pas des mutineries pacifistes, du moins en France. En France, c'était des manifestations contre, non pas contre la guerre, mais contre la façon dont on faisait la guerre. Contre les offensives inutiles, contre les morts pour rien. Mais on ne contestait pas la légitimité du combat. C'est pas ? Les soldats, si on avait mené des offensives utiles et propres... pour rien au monde, n'y aurait pas participé. En Russie, c'est différent, n'est-ce pas ? En Russie, les mutineries de 1917 participent un peu à l'internationalisme et beaucoup au pacifisme. C'est tout à fait différent. Mais en Russie, on ne chante pas l'international, on chante la Marseillaise.
Alors évidemment, la Marseillaise et l'international ont l'air d'être deux hymnes tout à fait inconciliables. La Marseillaise... elle aussi a eu des significations, c'est ce que nous dit Marc Ferraud, tout à fait différentes de révolutionnaires. Elle est devenue parfois le symbole national, pour pas dire nationaliste, pour redevenir parfois un hymne révolutionnaire. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'international, partie du cœur même du peuple français, du peuple ouvrier et paysan de ce pays, elle a pu devenir cette énormité pompeuse, telle qu'on l'a entendue dans des interprétations des chœurs de l'armée rouge, par exemple. On retrouve nos invités.
En 1896... un congrès à Lille du Parti ouvrier amena des délégués de France et de l'étranger. On les accueillit avec l'international, et c'est ainsi que l'air sortit de la région du Nord et se répandit.
À partir de quand arrive la musique ?
Oh, dans les années 80. Alors, dans les années 80, la Fédération de Lille du Parti socialiste aime ses paroles, n'est-ce pas ? l'auteur Potier a eu un prix. Et on demande à quelqu'un s'il veut mettre ça en musique, il le met, c'est Degetter qu'il fait chanter par son frère Adolphe. Et à partir de là, alors là, c'est une traînée de poudre, le chant et sa musique font le tour du monde. Ça a eu un succès immédiat et général. Tout le monde l'a voulu, cette chanson.
Alors tout le monde le prend,
oui,
tout le monde
le... Tous les ouvriers du monde entier, tous les partis socialistes, après 1920, tous les partis communistes. Je veux dire que cet hymne va avoir un succès fantastique. Comme aucun dans l'histoire.
La Libération, c'est pas, on chante la Marseillaise à la Libération.
Absolument, oui, absolument. La Libération, on chante la Marseillaise, c'est tout ce qu'on chante d'autre.
Oui, oui, bien sûr. Et alors, en 68, nous revoilà,
oui,
en train de bredouiller l'International.
Là, on chante à nouveau l'International, parce qu'à nouveau, la Marseillaise est devenue un hymne officiel. Chaque fois que la Marseillaise est un hymne officiel, les jeunes ou les plus vieux rechantent l'International. Chaque fois qu'on proteste, on chante l'International. Et moi, j'étais frappé qu'au moment des grandes grèves de 95, on a chanté à nouveau l'International.
Oui.
Qu'on n'avait pas chanté depuis... Alors que l'URSS était tombée, qu'il n'y avait plus de communisme. Mais l'International, c'est vraiment le chant qui explose lorsqu'on en a plein le cœur et qu'on veut dire qu'on a espoir, qu'on va enfin faire quelque chose de nouveau.
C'était une nouvelle diffusion de l'International, un reportage d'Anne Rioux pour l'émission La Basse Égypte de Daniel Mermet. Merci à Marc Ferraud. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique Émission. La Basse Égypte. À la technique aujourd'hui, Pierrick Mancini et Lidwin Caron, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Charlotte Perry, répondeur Agnès Le Bot, le répondeur de La Basse Égypte, 01 56 40 37 37. Dans un instant, le carrefour de l'Odéon. Merci d'écouter France Inter, il est 16h.